Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Pas Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'Emploi. Mode d'Emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires. Alors ce soir, une émission particulière parce que nous invitons donc Magali qui est de Sud Emploi. Bonjour Magali.
Bonsoir.
Et Jérôme qui est donc inspecteur du travail.
Bonsoir.
Bonsoir. Et qui est de Sud, donc travailleur social. Voilà.
Sud Travail Affaires Sociales.
Merci. Donc, Sud Travail Affaires Sociales. Ouais.
Du ministère du Travail et des Affaires Sociales.
Merci beaucoup. Et donc c'est Claude à la Ludo à la technique, et Gilles au micro aussi. Voilà. Donc ce soir, nous parlerons effectivement donc des inspecteurs du travail, principalement du projet Sapin Rebsamen qui casse le métier. De la nouvelle convention UNEDIC, évidemment. Et pour ce faire, voilà, on parlera également, dans le cadre de cette convention UNEDIC, des droits rechargeables, hein, qui sont en fait, qui maintiennent les chômeurs dans la précarité. On va voir pourquoi. Évidemment, et des luttes sociales en fin d'émission. À tout de suite. Très bien, alors pour commencer cette émission, Jérôme, est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux du métier d'inspecteur du travail, parce que les gens savent un petit peu ce que c'est, mais ne connaissent pas la réalité du métier.
Mm-hmm. Bon, en fait, l'inspection du travail est un corps de la fonction publique qui est mis en place suite à la ratification par la France, il y a maintenant un bout de temps, puisque ça a été ratifié en 1919, je crois, en France, de la Convention 81 de l'Organisation internationale du travail. Cette convention oblige les États signataires à mettre en place, chacun en ce qui les concerne, une fonction publique ou au moins une agence publique indépendante qui est chargée sur tout leur territoire de faire appliquer le droit du travail dans l'État dans lequel il est, dans chaque pays. Donc c'est pour que le droit du travail ait une effectivité réelle et légale dans les différents pays dans lesquels cette convention a été signée. La plupart des pays d'ailleurs ont signé cette convention et ont une forme au moins d'inspection d'hygiène selon les pays, d'inspection d'hygiène sécurité, etc. Nous on a des prérogatives assez étendues et des modes d'action assez variés. Alors quand on dit appliquer le droit du travail, qu'est-ce que ça signifie, hein? Bon, il y a trois grands piliers, on va dire, hein, du droit du travail. Le premier, c'est l'hygiène et la sécurité. Parce que bon, je vous refais pas le vieux poncif de travail tripalium torture, hein, qui a déjà dû être sorti dans cette émission, j'en suis
absolument
sûr.
Oui.
Mais bon, le travail, c'est quand même un effort, ce qui veut dire une fatigue, ce qui peut parfois dire une souffrance, voire même dans certaines situations de danger. Quand on travaille, c'est pas neutre, on se met en danger physiquement ou moralement ou mentalement. Donc l'hygiène sécurité, c'est tout ce qui protège la santé et la sécurité des personnes au travail. Donc ça, c'est un pan quand même assez important. Ça va évidemment de la sécurité sur les chantiers jusqu'à la protection contre le harcèlement moral. Donc on voit que c'est très très large en fait, hein. Donc nous sommes chargés d'appliquer les lois existantes en matière d'hygiène et sécurité dans les lieux de travail. Alors le deuxième grand pan qu'on est chargé de contrôler, alors avec plus ou moins de moyens, on verra ça plus tard, c'est la correspondance salaire-durée du travail. Parce que ça, c'est le cœur de la relation de travail. On donne un temps de travail à son employeur en contrepartie d'un salaire. Et donc, c'est entièrement lié. Donc, on doit vérifier et obliger l'employeur à appliquer au moins les salaires minimaux et à respecter un certain contrôle de la durée du travail. On verra plus loin en quoi c'est parfois un peu difficile. Salaire, ça ne veut pas dire que le salaire, l'argent versé. Le salaire, c'est aussi ses accessoires, notamment les bulletins de paye. Donc on vérifie la régularité des bulletins de paye et le fait que toutes les heures sont marquées dessus, par exemple. D'accord. Et qu'elles sont toutes déclarées. Donc c'est des choses comme ça. Et donc le troisième volet, grand volet qu'on est chargé de mettre en œuvre, c'est le respect des droits des salariés dans l'entreprise, au sens notamment le droit à la représentation et le droit à avoir des institutions qui le représentent. Notamment, on reviendra dessus, la question des seuils de représentation. Au-delà de 11 salariés et plus, des délégués du personnel doivent être mis en place pour représenter les salariés. Au-delà de 50, c'est un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il y a également des délégués syndicaux ou des comités d'entreprise qui sont chargés de gérer différents aspects comme les accords, comme la répartition des œuvres sociales, c'est-à-dire sortir la charité de la main de l'employeur et de la donner au salarié, on va dire, hein. C'est ça un peu l'enjeu. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc on opère des contrôles dans les entreprises. On a un droit d'entrée qui est prévu par la convention 81, un droit d'entrée dans tout lieu où sont occupés des salariés, et un droit de contrôle sur toute une gamme, soit de documents, soit d'éléments d'hygiène et de sécurité ou autres, qui se traduisent, une fois qu'on a fini notre contrôle, par la rédaction de lettres d'observation, voire quand une loi a visiblement été enfreinte, de procès-verbaux qui sont transmis au parquet.
D'accord. Et vous avez une question. Vous avez un territoire donné. Vous avez combien d'entreprises par inspecteur du travail à contrôler?
On va voir que tout ça est en mouvement. Hein. Je parle pour l'instant T, hein, pas pour demain, parce que demain est un autre jour là, surtout avec le plan Sapin en cours. On y reviendra. Bon, alors aujourd'hui, c'est quoi le territoire de contrôle d'un inspecteur du travail? C'est une section d'inspection qui est composée donc de l'inspecteur du travail, de deux contrôleurs du travail qui s'occupent plutôt de petites entreprises et de chantiers, mais qui sont très importants sur le terrain. C'est vraiment la cheville ouvrière, on va dire, de l'application du droit, et d'un secrétariat qui il y a un certain temps maintenant, malheureusement, était composé de deux secrétaires par section, et qui aujourd'hui, on a regroupé, on a fusionné, on a réduit, etc. Donc maintenant, c'est beaucoup moins. Et c'est déjà un début de ce qu'on verra plus tard sur l'éloignement du public. Hein. Bon, alors, voilà, ça c'est un peu notre lot quotidien. Une section, ça représente à peu près entre, quand on a de la chance, 70, et quand on n'en a pas, 120 entreprises de plus de 50 salariés, c'est-à-dire des entreprises avec comité d'entreprise, comité d'hygiène sécurité, délégués syndicaux, qui sont généralement contrôlés par les inspecteurs du travail, qui ont le pouvoir d'autoriser ou non le licenciement des salariés protégés, donc des salariés représentants du personnel. Donc d'où plutôt l'attribution aux inspecteurs du travail des entreprises de plus de 50 salariés, où il y a plus de ce type de salariés. Généralement, une section d'inspection, c'est plusieurs milliers d'entreprises de moins de 50 salariés pour les contrôleurs, ce qui fait que les contrôleurs ont beaucoup de mal à être très présents dans toutes les entreprises. Ils sont obligés de cibler, ils sont obligés de circuler et de changer d'objectif de contrôle.
Oui, une petite question, hein, c'est Ludovic, pour mode d'emploi. Alors, il paraît que dans la fonction publique, la fonction publique ne peut pas avoir recours à l'inspection du travail, c'est vrai ?
Alors, en fait, la fonction publique n'est pas dans notre champ de contrôle. Alors, c'est assez variable en réalité, parce que, par exemple, la fonction publique hospitalière a le droit a le droit d'être inspectée, et nous pouvons participer au comité d'hygiène et sécurité des hôpitaux, par exemple. On verra pour Pôle emploi que là aussi, il y a eu pas mal de flottements sur nos droits dans Pôle emploi. Nous sommes par exemple compétents sur la Poste maintenant, puisque la Poste a été basculée en mode SA, donc société anonyme, que donc normalement on devrait avoir une pleine prérogative de contrôle désormais sur la Poste. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres, on nous fait beaucoup de freinage pour nous laisser entrer, mais partout où on intervient, par exemple la Poste, on a déjà pu les mettre en cause pour leurs pratiques en termes de durée du travail, par exemple, voire même de travail dissimulé. Mais on ne va pas rentrer un peu trop dans le détail. Donc ça varie, on n'est pas compétent sur l'administration, proprement dite. Hein, l'État ne peut pas lui-même se dresser procès-verbal, quoi. Donc c'est une autre fonction publique qui s'occupe effectivement de l'hygiène et sécurité, par exemple dans la fonction publique.
Très bien, merci. Magali, toi, dans ta réalité de professionnelle, comment ça se passe aujourd'hui ?
Bah moi, je travaille à Pôle emploi, donc l'opérateur de service public. On reste un peu dans les missions de service public. Aujourd'hui, à Pôle emploi, il y a trois fonctions, trois métiers, qui est d'accompagner les chômeurs, principalement, mais on est aussi, en tant que service public, ouvert à toute personne qui a des questions sur le métier, l'indemnisation, quelle qu'elle soit. Notre deuxième mission, c'est d'indemniser les demandeurs d'emploi. Notre troisième, c'est d'orienter, puisque nous avons intégré des psychos de l'AFPA et des assistants techniques il y a quelques années. D'accord. Donc ça, ce sont nos trois fonctions au sein de Pôle emploi. Donc moi, je suis plus à même de parler de l'accompagnement et du retour à l'emploi, puisque je suis conseillère à l'emploi. Mais aujourd'hui, Pôle emploi, ce sont trois missions au sein d'un même établissement.
D'accord. Et le portefeuille que vous avez, c'est combien de chômeurs par portefeuille ?
Alors après, bon, ça dépend, puisque nous avons une organisation interne qui est assez compliquée. D'accord. Nous avons ce qu'on appelle des modalités de suivi. Donc, en fonction du diagnostic qu'on va poser sur la situation du demandeur d'emploi, on va essayer d'évaluer sa distance de retour à l'emploi. Donc ensuite, soit on va le diagnostiquer autonome. Donc dans ce cas-là, il sera en parcours suivi. Soit on va estimer qu'il a besoin d'un appui ponctuel, il sera plutôt en suivi guidé, ou alors c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être accompagné, il sera en suivi renforcé. Et en fonction de son suivi, les portefeuilles ne sont pas les mêmes. Un conseiller qui fait du renforcé aura 70 demandeurs d'emploi s'il est à temps plein. Officiellement, je dis bien officiellement, selon notre direction générale, quelqu'un qui suit des demandeurs en parcours guidé devrait avoir jusqu'à 150 demandeurs d'emploi. Dans la vraie vie, ça peut monter jusqu'à 300, 350, voire plus. Et pour les demandeurs qui sont les plus autonomes en parcours suivi, les collègues peuvent avoir jusqu'à 400, 500, voire 600 demandeurs d'emploi en fonction des agences et des territoires sur lesquels ils exercent.
D'accord. Et ce suivi, il se fait sur combien de mois ? C'est un suivi qui dure un an, six mois ? C'est un suivi qui...
Il n'y a pas vraiment de durée. Il n'y a pas vraiment de durée, sauf peut-être pour tout ce qui est accompagnement renforcé. On va estimer qu'au bout de 6, 9, voire 12 mois, si la personne est toujours à la recherche d'emploi, ce n'est peut-être pas ce qu'il lui faut comme suivi. Mais moi, en guidé, j'ai des personnes qui sont inscrites depuis des années et des années.
D'accord.
Mais malheureusement, voilà, c'est qu'on a une charge de travail qui est tellement importante qu'on ne peut pas recevoir le demandeur d'emploi autant de fois que lui en aurait besoin. Parce que moi, en tant que conseillère à l'emploi, je pars toujours du besoin du demandeur d'emploi. Donc, quelqu'un qui demande à me voir toutes les semaines, j'essaye de faire mon maximum. Maintenant, quand je peux pas, je ne peux pas. Quand j'ai pas les moyens, je peux pas.
Très bien. Je te remercie. On va faire une petite pause musicale et ensuite, on va aller dans le fond du sujet.
Comité réduit, foule immense, qui ce soir de votre présence me faites le don et l'amitié.
Deux, trois actions, messieurs, dames. Aïe, le travail. Grosse malheur.
Comme quoi on peut être chômeur et pouvoir faire de bonnes chansons aussi. Hein. On n'est pas. Voilà.
Tout à fait.
C'était un pote qui. Voilà. Donc c'est une bonne chanson, hein. T'as aimé?
Ouais, vraiment très très bien.
Donc on reprend cette émission, c'est Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Je suis avec Magali de Pôle emploi et puis Jérôme de. Inspecteur du travail, voilà, merci. Donc on reprend une émission sur évidemment ce qui va fâcher un petit peu parce qu'on va parler un peu des difficultés du métier, Jérôme. Apparemment un projet était en cours, c'est le projet Sapin Repsamen, hein, donc voilà. Apparemment il est passé quand même sans concertation a priori. Dis-moi un petit peu ce qu'il en est là.
Tout à fait. Alors je voulais juste pour faire la transition avec ce qu'on vient de décrire sur un peu le travail idéal, le travail qu'on vient de décrire sur comment soit on suit les chômeurs, soit on fait appliquer le droit du travail, un peu le sens du métier. Ça c'est tout très beau. Faut savoir que bon, en ce qui nous concerne, les réalités du terrain elles nous rattrapent un peu hein, après tout ça. D'abord c'est face à la généralité de la fraude patronale. Déjà faut commencer, c'est pas des épiphénomènes, c'est tout le système économique qui est basé soit sur moi je fraude, soit je confie la fraude à un sous-traitant qui va le faire à ma place. Donc ça à contrôler, c'est extrêmement difficile, c'est une masse de fraude qui est très difficile à appréhender. Alors face à ça, on a des faiblesses de moyens. D'abord, en termes de moyens légaux, quoi. On peut pas tout demander. Il faut justifier de chaque demande. Tous les documents sont pas à disponibilité. Évidemment, c'est plus facile pour un employeur de ne pas remplir un certain nombre de documents, quitte à se faire attraper, parce que bon, il sait qu'il s'en sortira. On verra pourquoi plus tard. Donc, il y a une faiblesse de moyens de contrôle. Alors, pourquoi l'employeur a plutôt intérêt à faire le dos rond face à une demande de l'inspection du travail? Bah, c'est que, en fait, la condamnation, elle peut faire peur. Mais s'il connaît un peu les rouages, il sait que les chances de se faire condamner sont quand même assez faibles. L'absence de suite est notre grand problème, quoi. Faut voir ce que c'est qu'un tribunal de grande instance, où sont jugés la majorité de nos procès-verbaux. Un tribunal de grande instance, ça juge tout sur un département. Ça juge les vols avec violence, les dégradations, les voitures brûlées, etc. Ça, c'est juste pour, on va dire, la petite incivilité, encore, à ce stade. Ça juge les stupes. Donc ça juge à peu près tout ce qui ne relève pas de la cour d'assises en délit. Hein. Donc plus si on rajoute à ça les fraudes à la consommation, les fraudes à la vente, le fisc, etc. Bon bah après là-dedans dans tout ça, le procureur il est débordé, il se retrouve avec une pile de dossiers dans lequel va peut-être avec un peu de chance dépasser un dossier sur bah je sais pas entrave au comité d'entreprise d'une entreprise. Bon, son choix il va être vite fait. Hein. Lui il a de l'abattage à faire. Hein. C'est, au bout d'un moment quand il arrive ça devient sérieux. En plus il est de tradition pour les procureurs de changer régulièrement de tribunal, donc pour ne pas rester toujours en place, hein, et ça favorise, ça, ça empêche les collusions, ça empêche, bon, c'est, voilà, je juge pas, c'est la magistrature. Résultat net, qu'est-ce que fait le nouveau quand il arrive ? Ben grosso modo, il prend une pile de tout ce qu'il lui a laissé le précédent et il le classe. Classement sans suite.
D'accord.
Donc bon, une bonne partie de nos procès-verbaux sont classés sans suite, non pas forcément parce qu'il n'y a rien dedans, mais parce que bah, c'est compliqué, ça demande du temps, et il y a plus rapide, il y a des comparutions immédiates aussi à juger, etc. Donc tout ça, ça occupe le temps du tribunal. Donc un patron qui fait le mort, il a toutes les chances de s'en sortir. Alors en plus...
Il y a prescription au bout de 3 ans, tu m'as dit, c'est ça?
Il y a les délits, oui.
D'accord. L'entrave.
L'entrave est un délit, mais c'est prescription au bout de 3 ans. D'accord. C'est pas... Ouais. Voilà. Donc ça va vite, hein. Une affaire, elle est rapidement prescrite. Et surtout s'il se passe rien, si le magistrat il fait pas la moindre procédure, et il a pas le temps forcément de faire des procédures sur tout ce qui lui est fourni. S'il fait pas la moindre procédure d'instruction, bah on arrive rapidement à la prescription. Alors il y a pas que ça. Alors ce qui est rigolo, c'est moi j'ai entendu Bérou dire le code du travail c'est trop lourd. Il pose un gros code du travail sur la table en disant boum, ah vous voyez c'est énorme. Non mais nous aussi on est d'accord, le code du travail il est beaucoup trop gros. Parce que ça fait des années et des années qu'on fait de la gonflette avec et qu'on le bourre de dérogations. Alors c'est quoi la dérogation ? C'est la loi dit quelque chose, ça c'est un article. Mais si on remplit telle ou telle ou telle ou telle condition, alors on peut déroger à la loi. Ça remplit 20 articles. Alors qu'est-ce qui alourdit le code du travail ? C'est la mousse qui permet d'éviter la loi ou c'est la loi ? Mais moi je dis c'est la mousse. Et si on avait un code du travail qui se contentait de dire la loi c'est ça... Il pourrait faire 10 pages et on serait assez content en fait, parce que en réalité, ça nous permettrait d'appliquer ça beaucoup plus facilement. Donc tout ça, c'est des difficultés concrètes qu'on a sur le terrain. Et une dernière qui a été soulignée de longue date, y compris par le Bureau international du travail, qui est quand même notre instance internationale de tutelle, c'est que on a une faiblesse dans les effectifs en France. On a longtemps été au niveau de l'Albanie en termes de nombre d'inspecteurs du travail par entreprise, quoi. Donc faut pas, voilà, c'est, on n'est pas en train, on n'est pas une fonction publique pléthorique qui est en train de pleurer parce que c'est l'habitude. On est une fonction publique qui est à sec, qui est déjà à l'os et qu'on va voir qui est en train en plus de se faire restructurer profondément, quoi.
D'accord.
Je pense que
Mais Magali, tu peux me dire par rapport justement à cette nouvelle convention UNEDIC, est-ce qu'il y a des changements? Je parlais tout à l'heure de, pour relancer l'émission, tu parlais tout à l'heure des droits rechargeables qui étaient effectivement pour le chômeur, une sorte de maintien à la précarité, parce qu'effectivement, si on a effectivement 150 heures à faire et puis qu'on n'a plus d'ACEDIC, il faut refaire 150 heures pour pouvoir prolonger son. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, là, il y a peut-être un, vous avez des soucis par rapport à ça, vous, est-ce que vous
Alors, ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place le 1er octobre, donc ça va se mettre en place tout doucement, hein, sachant qu'il faut que les applicatifs informatiques suivent. Donc moi, je pense qu'on va avoir quelques couacs, mais à voir. Je pense qu'on parle des droits rechargeables, mais de façon plus générale, cette nouvelle convention d'assurance chômage, c'est une attaque pour tous les chômeurs et bien au-delà de tous les salariés. Puisque maintenant, au vu du contexte, aujourd'hui on travaille, rien ne nous dit que demain on ne sera pas chômeur. On parlait des droits rechargeables qui a été présenté par le patronat, par la CFDT, comme une avancée, une grosse avancée. Quand on creuse un peu, moi, l'avancée, et mon syndicat, en tout cas, on la voit pas du tout. En quoi ça consiste? Quelqu'un touche une allocation de retour à l'emploi. Alors, on dit encore toucher les ACEDIC. Hein. Quelqu'un touche ses ACEDIC. Voilà. Touche ses ACEDIC et puis il arrive en fin de droit. Le dernier jour de ses droits, on va regarder si, au cours de son indemnisation, il a travaillé 150 heures. S'il a travaillé 150 heures, on va lui refaire une ouverture de droit d'au minimum 150 heures.
D'accord.
Donc, c'est un peu compliqué. C'est entre 150 heures et 610 heures. 610 heures qui permettent une nouvelle ouverture de droit. Donc, ça peut être c'est présenté comme une avancée par certains dans la mesure où ça peut éviter de tomber dans les minima sociaux, l'ASS ou le RSA. Maintenant, concrètement, l'analyse que nous, on peut en faire, c'est de dire que c'est pas du tout une avancée, que si on veut pas tomber dans les minima sociaux, ça veut dire ça va être la course pour trouver 150 heures, ça veut dire qu'on va accepter n'importe quel boulot, dans n'importe quelle condition, à n'importe quel salaire, et ce qui va faire des chômeurs une main-d'œuvre encore plus flexible, encore plus malléable, et un cadeau en plus au patronat.
Si je peux, c'est la même pression qui s'exerce sur les chômeurs et sur les salariés. Il n'y a pas que les chômeurs qui vont devenir plus flexibles et plus malléables. Si les salariés voient que le chômage, comment on pourrait dire, c'est pas que ça paye pas, mais que ça devient impossible, invivable, ils vont eux-mêmes, dans les entreprises, devenir plus flexibles et plus malléables.
C'est chantage.
Pour ne pas y aller.
C'est un chantage. C'est un chantage. Et nous, on le constate. C'est encore plus difficile. La précarité rend encore plus difficile le respect des droits des salariés. Et évidemment, la peur du chômage, c'est un outil par excellence. Pour le patronat, pour discipliner la force de travail, ça c'est clair.
Mais il y a même une partie sur les droits de carence, enfin pour l'indemnisation, plus les pourcentages aussi par rapport au brut, c'est ça, c'est passé de 57,4 je crois à 57.
Alors sachant que moi je ne suis pas technicienne allocataire, justement tout à l'heure je faisais bien la différence sur nos trois métiers, maintenant enfin puisqu'on parlait des difficultés aussi, oui, aujourd'hui les difficultés c'est qu'on n'a plus de métier, alors l'inspection du travail... On est en train de vous détruire, mais ouais. Mais chez nous aussi, on est en train de détruire nos métiers, puisque moi, je suis conseillère à l'emploi, mais justement, tu me poses une question d'indemnisation et je te réponds. Ouais. Alors, il y a la syndicaliste, mais il y a aussi l'agent Pôle emploi qui se trouve confronté au quotidien à des questions d'indemnisation et c'est pas son métier, mais elle est obligée de répondre. Donc oui, on est passé à 57% au minimum au niveau de l'indemnisation. Le délai de carence est monté à 180 jours en ce qui concerne les indemnités supralégales, hormis licenciement économique. Donc on dit que ça concerne principalement les cadres, mais on passe quand même à 180 jours, ce qui fait 6 mois de carence. Ça veut dire que la personne va être obligée d'attendre 6 mois avant de pouvoir toucher une indemnisation.
La première indemnisation, c'est ça ?
Ouverture du droit.
Ah oui,
lors d'une ouverture de droit.
6 mois. Ah oui, c'est énorme. Oh là là, oui, effectivement. Ah, je ne sais pas ça. Tu vois, comme quoi, je viens d'apprendre quelque chose. Là, pour le coup,
Ça ne concerne pas tout le monde. Hein. C'est les négociations qu'on peut faire avant de partir. On négocie une prime pour partir, mais le délai peut aller jusqu'à 6 mois d'attente.
D'accord.
Sans compter les 7 jours de carence qui sont pour tout le monde, pour le coup. Et les indemnités de congés payés, si jamais il y avait des congés payés.
D'accord. Très bien. Alors. Excuse-moi, parce qu'on parle dans le micro, là, le technicien là, qui fait ah, voilà. Donc, ok. Donc, moi, quelles sont les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui à Pôle emploi, justement, parce que toi, tu es sur des luttes aussi à Pôle emploi. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement fait bondir ces derniers temps dans la convention, mais même en dehors de la convention?
Je pense que depuis la fusion, on bondit tous les jours. Hein. C'est une destruction de nos métiers. Donc, comme je disais, moi, je suis conseillère à l'emploi, on me demande de faire de l'indemnisation. Je ne suis pas technicienne allocataire. Une charge de travail qui explose, c'est une réalité. Je vais l'apprendre à personne que les chiffres du chômage continuent d'augmenter, ce qui veut dire que nous, on a de plus en plus de personnes à recevoir, et pas qu'à recevoir, leur dire bonjour, c'est aussi à avoir du temps pour les écouter leur histoire. Chacun arrive avec une histoire, un deuil d'un métier perdu à faire, enfin, ça peut prendre du temps, et ce temps, on peut pas forcément l'accorder aux gens, non pas qu'on ne le veuille pas, mais on ne peut pas en termes de charge de travail. Il y a quelque chose que j'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais moi, en tant que conseillère à l'emploi, j'ai deux usagers. J'ai d'un côté les chômeurs, mais j'ai aussi de l'autre des employeurs. Parce que je suis aussi censée aller rechercher des offres d'emploi pour pouvoir les proposer aux demandeurs d'emploi, aider les employeurs dans le recrutement. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on est en train de nous enlever cette activité entreprise. En laissant le champ libre aux employeurs, ils peuvent déposer leurs offres sans que nous, conseillers, on ait à intervenir. On est en train de m'enlever l'activité entreprise, ce qui fait que quand on est conseiller, il faut qu'on connaisse le marché du travail. Pour connaître le marché du travail, il faut qu'on soit en relation avec les demandeurs d'emploi, pour qu'on les connaisse, qu'on sache leurs besoins, mais également les entreprises. Qu'est-ce qu'elles recherchent? Quels sont leurs critères? Qu'est-ce qu'elles proposent? Et que nous aussi, on puisse les conseiller en disant « Ah, vous recherchez un plombier avec 15 ans d'ancienneté payé au SMIC ?» Ça va pas le faire, là. C'est tout un pan de notre métier qu'on nous enlève. Et voilà les réorganisations, comme vous connaissez à l'inspection du travail, et comme pas mal d'autres entreprises et institutions connaissent, les réorganisations sans cesse et un management de plus en plus difficile à supporter.
Merci Magali. Alors justement pour revenir sur les inspecteurs du travail, dans le projet qui est devenu finalement une loi, tu voulais oui. Non. Donc le projet Sapin, hein, qui est apparemment passé quand même par décret, tu m'as pris ça hors micro.
Ouais.
Donc casse complètement le métier, parce qu'en plus, donc j'ai compris qu'il y avait des nouveaux fonctionnaires, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais des nouvelles personnes qui rentrent dans le métier, qui sont des superviseurs.
Enfin,
des
gens, c'est encore pire que ça.
C'est pire que ça. Explique-moi un petit peu.
Voilà. Alors bon, déjà pour le premier constat, c'est que quelles que soient les fonctions publiques, on est basculés les uns après les autres dans la même nasse et dans la même restructuration, qui parfois change complètement les missions. Je vais juste faire un détour par ce qui est arrivé à nos camarades de l'Office national des forêts. Pourquoi je dis ça ? Parce que ils se sont retrouvés à l'origine de faire un métier de protection du patrimoine forestier national, un métier de vente à la découpe du patrimoine forestier national. En quelques années, le sens même de leur métier a été totalement bouleversé. Non, mais je dis ça parce que je connais des copains syndicalistes à l'Office national des forêts et ils sont en grande souffrance là-bas, quoi. Personne, évidemment, en parle parce que les forêts, bon, blabla, quoi. Mais n'empêche que c'est scandaleux quand les gens, ils se sont engagés dans une voie de leur changer le tapis de jeu sous les pieds, quoi. Et ça, c'est ce qui est en train de nous arriver à tous les uns après les autres. Alors, en ce qui concerne l'inspection du travail, bon, il faut déjà voir que il y a un corps entier de l'inspection du travail qui est supprimé. C'est le corps des contrôleurs du travail dont j'avais parlé tout à l'heure. Alors, faut savoir que quand je dis cheville ouvrière, c'est pas de la blague, quoi. C'est ceux qui sont le plus souvent sur les chantiers, c'est ceux qui s'occupent de toutes les petites boîtes où il n'y a pas de représentation du personnel du tout, donc où il n'y a personne pour défendre les salariés sauf eux. Et donc, c'est quand même un métier qui est vachement respectable et noble. Et le ministère, il a fait une croix dessus, mais du jour au lendemain. Il a dit au contrôleur du travail, vous n'avez pas le choix. Soit vous acceptez la carotte qu'on vous tend, soit c'est le bâton. Et la carotte, c'est vous allez passer un examen professionnel qui en fait est un concours déguisé en violation des lois de la fonction publique, même de notre propre statut, qui est extrêmement mortifère quand il est raté, quoi, on va dire, alors que les raisons sont pas clairement exposées. Et soit vous passez ce truc-là et vous devenez inspecteur du travail, soit vous restez contrôleur du travail, mais vous allez faire comme les autres. C'est-à-dire que vous allez continuer à faire les métiers, vous allez prendre sur vous les métiers de tous les autres, mais vous n'allez pas être payé un centime de plus.
Ils n'auront pas le même échelon, pas le même salaire.
Oui, oui. Et alors, attends, le plus scandaleux, c'est qu'ils ont justifié la suppression tout entière du corps des contrôleurs du travail en disant « il y a une loi qui va sortir sur l'inspection du travail ». Et tout ça sera mis à plat et passé devant le Parlement. Ils ont promis ça alors qu'ils avaient déjà passé le décret de suppression des contrôleurs du travail. Donc il n'y avait même pas une suppression d'un corps entier de la fonction publique, même pas de passage devant le Parlement à ce stade. Et donc ils nous font tout le barouf sur « il y a une loi qui va passer, il y a une loi qui va passer ». C'est un cavalier législatif introduit dans la loi sur la formation de professionnels examinée en mars 2014.
D'accord.
Donc, ce cavalier juridique, nous, syndicats, on le combat. Et on le combat et à tel point qu'il ne passe pas au Sénat. Le Sénat bloque le passage de l'article 20 de la loi sur la formation professionnelle qui est un cavalier juridique sur l'inspection du travail. On se dit, bon, ils vont peut-être faire une petite pause, le temps de récupérer leur bille, les gars, parce que, bon, voilà, ils viennent de se prendre une claque. On se dit qu'il va peut-être se passer quelque chose. Eh ben, ils passent la totalité de la loi de réorganisation par décret. Et D'accord. donc, ils appuient un décret de la suppression du corps des contrôleurs du travail par un autre décret. Allez, hop là, c'est pas grave, il n'y a même pas de loi chapeau là-dessus. On est un peu, voilà, on n'est pas des grands maîtres du droit, quoi, mais le droit administratif, on connaît un petit peu, quoi. On sait que ça se fait pas normalement. Ouais. Mais c'est pas grave, allez, tout ça passe. Alors, non seulement ils nous suppriment des gens qui sont sur le terrain, des contrôleurs du travail, mais on nous impose par contre un niveau hiérarchique supérieur. Et le scandale, c'est même pas que c'est des gens qui viennent de l'extérieur pour nous chapeauter, ce serait déjà scandaleux. C'est des gens qui sont retirés du terrain. Tous ces gens-là, c'est des inspecteurs du travail qui sont passés responsables d'unités de contrôle, donc nos super chefs maintenant. Ça fait 15 à 20% d'effectifs de contrôle en moins pour devenir nos hiérarchiques.
D'accord.
Voilà. Donc c'est tout simple. On nous parle d'application du droit du travail. On retire 15 à 20% des effectifs pour faire un niveau hiérarchique qui ne sera jamais en contact avec le public. Donc, bon, voilà, je pose, voilà, c'est tout, hein. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. On sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire moins de services publics aux usagers, tout simplement. Parce que ce qui se passe, c'est que CERUC, ces nouveaux responsables d'unités de contrôle, qui sont les nouveaux chefs de l'inspection du travail, eh ben, ils vont nous obliger à faire des actions prioritaires. Priorité de qui ? Priorité du ministère, pas priorité des salariés. Ça, c'est clair. Donc, priorité du ministère, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et pendant ce temps, ben, vous n'aurez plus le temps de recevoir les salariés. 80% de notre boulot, c'est de la demande sociale. On reçoit quelqu'un, il est en difficulté avec son employeur, il veut savoir si ses conditions d'emploi sont légales, et nous, on lui répond et on intervient dans l'entreprise. Mais ça, ils veulent que ça cesse. On veut nous faire passer, et ça c'est quelque chose que je défends depuis un bout de temps, c'est cette idée qu'on veut nous faire passer d'un service public au service des usagers concrètement, à une administration public. Au service des politiques de l'État, et qui n'a plus rien à voir avec les gens qu'on est supposé initialement servir. Ça c'est grave, et ça c'est tout le monde qui va payer le prix de ça. Voilà, c'est ce que je dis.
Mais là, pour le coup, il y a cette réforme. Pour le coup, il y a une perte de sens dans la pratique du métier, finalement.
Clairement. Oui. D'autant plus que tout ce processus de restructuration, il a été fait sans que jamais on interroge les agents. C'est-à-dire que même à travers leurs instances, comme par exemple, alors il y a un truc qui va faire rigoler tout le monde. Nous, on est chargé de faire respecter en cas de plan social les prérogatives du comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. C'est-à-dire que sans arrêt, les employeurs sont en train de nous dire « Ah oui, mais on licencie la moitié du personnel, mais c'est sans impact sur les conditions de travail. » Et sans arrêt, on monte au créneau pour leur dire « Vous fichez de nous, là. » Et on leur sort des jurisprudences longues comme le bras qui disent bien que, bien sûr, une restructuration dans le privé, c'est une modification des conditions de travail. Bien sûr que le CHSCT doit être consulté. Chez nous, le CHSCT, pas consulté. C'est pas grave, hein.
C'est légal, ça ?
Le problème, c'est que c'est la fonction publique. Donc, ce qui est légal dans la fonction publique, c'est un peu « faites ce que je fais parce que je dis », hein. « Faites ce que je dis parce que je fais », ou je sais plus trop. Mais en réalité, dans la fonction publique, les prérogatives du CHSCT sont moins fortes que dans le privé. Ils sont supposés être alignés. Elles sont supposées aujourd'hui être alignées, c'est-à-dire que les CHSCT publics égalent les CHSCT privés, c'est-à-dire comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail, les conditions de travail des employés ou des agents. Mais sauf qu'en réalité, le Conseil d'État interrogé par l'Éducation nationale, le Sud Éducation nationale, sur la réforme des rythmes scolaires, ça va quand même impacter un peu les conditions de travail, a dit bah non, on vous fout en l'air votre temps de travail, on vous fout en l'air votre journée de travail, mais ça n'a aucun impact sur les conditions de travail. Bon voilà, donc on en est un peu là dans la fonction publique, c'est un peu compliqué quoi. Mais il y a un mélange de mauvaise foi, il y a un mélange de passage en force, il y a un mélange de mépris de la loi et clairement de mépris des agents et des usagers quoi. Ça c'est indéniable.
Mais je pense que on peut faire le constat sur tous les services publics en règle générale, l'inspection du travail, le service public de l'emploi que je connais bien, mais de façon générale toute la fonction publique aujourd'hui est mise à mal avec ses missions de service public et on s'interroge vraiment aujourd'hui sur nos missions de service public. Pourquoi je me lève le matin? Pour faire du chiffre? Alors du chiffre, répondre à des indications, à des indicateurs purement politiques, mais en rien à la demande des usagers. Et tu parlais tout à l'heure aussi d'une mise à distance de l'usager. Au sein du service public de l'emploi, on le sent bien, c'est qu'aujourd'hui, Pôle emploi, ça existe, mais si on peut regarder son espace personnel sur Internet à la maison, si on peut prendre son téléphone pour appeler le 3949 à la maison, plutôt que se déplacer, on préférerait. Aujourd'hui, c'est ça, le service public de l'emploi, mais on peut le généraliser à toute la fonction publique, à tous les services publics.
Alors moi, ce qui m'intéresserait, merci Magali aussi. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir un petit peu, parce que là, c'était le RUC pour le RUC, c'est ça, pour chez vous là. Et toi, c'est comment ça s'appelle chez toi? Alors, t'es supérieur hiérarchique,
c'est pas un supérieur hiérarchique. Nous, on a les RRA,
d'accord,
les référents réglementaires et applicatifs. On parlait du management tout à l'heure, mais en fait, on peut se rendre compte que le management à l'inspection du travail, c'est le même qu'à Pôle Emploi et que dans d'autres entreprises, puisqu'on est en train de prendre le management du privé, si on rajoute des échelons dans le contrôle et la supervision, en enlevant des personnes du terrain. Donc nous, les RRA, sont des personnes aussi qui étaient sur le terrain à recevoir des demandeurs d'emploi, à répondre au téléphone à des employeurs, à liquider des dossiers, et qu'aujourd'hui, on a enlevé d'une bonne partie de leur temps du terrain pour être référent réglementaire et applicatif, mais voilà, c'est des personnes qu'on enlève du terrain alors qu'on a fortement besoin d'elles.
Merci Magali. Alors, juste une dernière question, Jérôme, avant de faire un petit espace musical. Tu parlais également de la suppression du prud'homme. Alors, ça en est où cette histoire? Alors, dis-moi un petit peu.
Alors, faut voir que cette modification à la fois du côté de Pôle emploi et du côté de l'inspection du travail, ce ne sont pas des phénomènes isolés. Et il faut bien avoir conscience que le gouvernement, quand il avance un certain nombre de choses comme ça, il ne travaille jamais en tuyau d'orgue, c'est-à-dire il ne travaille jamais en isolant les dossiers les uns des autres. Et en fait, si on prend dans sa globalité ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les droits salariaux, les droits sociaux, les droits de défense des salariés par exemple, on s'aperçoit que c'est une entreprise de casse généralisée. Je prends comme exemple, il y a eu suspension plutôt dans l'année, enfin en fin 2013, il y a eu suspension des élections prud'homales. On devait avoir des élections prud'homales normalement cette année. Elles ont été totalement suspendues. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les conseillers prud'homaux, c'est toujours ceux qui ont été élus il y a maintenant 4 ans de cela, voire plus. Enfin, je me rappelle plus quand étaient les dernières élections, mais grosso modo, il y a une volonté de ne plus refaire d'élections prud'homales. Alors, on a plein de prétextes, il y a toujours les bons prétextes, hein, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que l'institution prud'homale, elle est fragilisée. C'est quoi les prud'hommes ? C'est quand même tous ceux qui mettent au plat, à plat, les irrégularités qui ont été commises par les employeurs.
Les litiges, oui, c'est ça.
Les litiges. Donc, ça veut dire qu'au moment des prud'hommes, c'est quand même le moment où on fait le solde. Le vrai solde de tout ce que l'employeur doit réellement à son salarié. Donc c'est très important parce que c'est un moyen pour le salarié de sortir de sa relation de travail avec au moins la certitude que ce qu'on lui devait réellement a été payé. D'accord ? Donc c'est quand même une institution qui est importante, hein. Et c'est une justice qui est gratuite. C'est une justice qui est orale, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se faire représenter par un avocat. On peut se présenter tout seul ou accompagné d'un syndicat. C'est une justice qui intègre complètement des professionnels dans le traitement. Enfin, c'est formidable, quoi. C'est un truc qui est génial. C'est une institution. On devrait en être super fiers d'avoir ça. Eh ben, on est en train de la passer à l'as. Et d'une part, évidemment, en cassant la structure institutionnelle elle-même, c'est-à-dire les prud'hommes, les conseils des prud'hommes elles-mêmes, l'élection, en supprimant l'élection prud'homale, parce que les projets, c'est de faire autre chose. D'accord, qui favorise la CFDT, soit dit en passant, comme ça, par hasard, hein, avec laquelle les chômeurs ont beaucoup à dire, par exemple.
Absolument. Ah, oui.
Et ben justement, par ailleurs, la dernière convention UNEDIC, avec la même signature des mêmes dont on vient de parler, par exemple, contre lesquelles les précaires sont en lutte, c'est un scandale qu'on l'ait fait passer comme une lutte simplement des intermittents. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a dedans, c'est la destruction des droits pour tous les précaires, pour tous les salariés licenciés, pour tous les chômeurs, en fait, grosso modo, pour tous ceux qui auront un problème d'emploi à un moment donné dans leur vie, quoi. Ou même qui sont juste sur des contrats précaires, ou des contrats CDD, ou des contrats intermittents, etc. Et donc, il y a un élément marteau, massue, qui est dans cette convention, c'est effectivement le prolongement des périodes de carence en fonction des indemnités supralégales qu'on aura obtenues au prud'homme. C'est-à-dire, grosso modo, que l'argent que vous êtes susceptible de gagner au prud'homme, il vous sera retiré indirectement par Pôle emploi, enfin l'URSSAF en fait, via Pôle emploi, parce que ce sera considéré comme du salaire supplémentaire qui prolonge la période de carence. Donc la vérité c'est quoi ? C'est que depuis le passage de cette convention, si on va au prud'homme et qu'on est salarié, si on est un salarié et qu'on va au prud'homme, on y va pour l'honneur. Parce que tout ce qu'on peut gagner, on va le reperdre d'une autre côté. Donc on y va juste pour que l'employeur soit condamné. C'est une grosse dépense pour aucun intérêt personnel. En fait, ça neutralise 80% de l'intérêt d'aller au prud'homme. Mais n'y voir aucune logique, c'est se mettre un voile devant les yeux, quoi. C'est se masquer la réalité. Il y a une logique. Et il y a la même logique qui préside à la modification successive et permanente des règles d'indemnisation. Là, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et également à la modification en profondeur de l'inspection du travail. C'est tout le système de défense salariale qui est en train d'être passé à la trappe. Voilà.
En gros, ce que la droite n'a pas fait, la gauche n'a pas osé faire, la gauche l'a fait, quoi.
Mais ça, c'est un grand classique aussi, c'est pareil. Sous prétexte qu'on a un gouvernement de gauche, il serait plus aux ordres des mêmes personnes. Mais les gouvernements successifs depuis de nombreuses années sont aux ordres de l'Europe. Et l'Europe elle-même n'agit que dans l'intérêt du patronat européen, avec ses représentants en France, qui sont les médias et le patronat français. Et la petite musique qu'on entend sans arrêt, les charges, le système social qui n'est pas adapté et le système de défense salariale qui doit changer, c'est l'Europe qui nous impose cette harmonisation vers le zéro, vers le zéro absolu. Donc, que quelque part, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Hollande, leur vrai chef de projet, c'est pas les électeurs. Hein.
C'est clair. Je te remercie, Jérôme. Une petite musique et ensuite on reprend la parole. Merci.
S, S, S. Je vais jouer au D, D, D. J'ai le Times F, F, F.
Et oui, c'était SDF de Alain Leprest, un chanteur engagé. Voilà, donc c'était sympa. Je reprends cette émission avec mes deux invités. Donc Jérôme, qui est donc inspecteur du travail, et puis Magali, qui travaille à Pôle emploi. Hein,
ouais. Conseillère
à l'emploi. Merci Magali. Maintenant, on va parler un petit peu des principes de résistance, hein, et puis des luttes possibles qu'on peut avoir pour modifier la donne, peut-être. Voilà. Je sais que je suis un utopiste, hein, je le sais, mais bon, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire quand même. Le pouvoir de la rue, déjà, ça va faire grève, etc. Donc justement, à Pôle emploi, Lomière, Magali, il s'est passé quelque chose en juin dernier. Vous êtes mis en grève. Ça a duré combien de temps, cette grève ?
Alors, on a fait une grève de 5 jours. Alors, oui. 5 jours, ça peut paraître peu, mais c'est quand même important au vu de ce qui peut se passer à Pôle emploi, enfin surtout de ce qui ne se passe pas, c'est que les mouvements de résistance, il n'y en a pas tant que ça. Ça a été une grève pour des effectifs, je ne vais même pas dire supplémentaires, mais on avait un tiers des effectifs manquants et on voulait ces effectifs. Alors non pas pour nos petites personnes, comme certains ont pu le dire ou le penser, mais parce qu'on a à cœur la délivrance du service public de l'emploi et un service public de qualité, et que pour rendre un service de qualité, il faut qu'on ait les moyens. Et les moyens, c'est aussi des moyens humains. Donc une grève de 5 jours qui a été victorieuse, qui s'est pas faite sans mal, mais qui a été victorieuse, où nous avons obtenu 5 collègues en CDI. Alors je ne parle pas des CDD parce que on n'est pas pour l'embauche de CDD, les contrats précaires, on n'est pas pour, mais en tout cas, on a gagné 5 collègues en CDI qui sont ou vont arriver au sein de notre agence. Je voulais dire que cette lutte, elle n'a pas été facile, pas facile pour nous parce que c'était pas forcément une grève unitaire au sein de l'agence, ça a été un collectif d'agents, mais qui a été soutenu par les demandeurs d'emploi, ceux qui fréquentent régulièrement le Pôle emploi de Paris-Lomière, mais de façon générale par les chômeurs, par les associations de chômeurs, par les intermittents, qu'ils soient du spectacle ou non, par les intérimaires, par les précaires, de façon générale. Et ce que cette lutte montre, elle montre que c'est possible, que ça peut partir d'un petit noyau, d'une petite revendication locale. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire grossir cette grève à d'autres sites parce que nous sommes tous en sous-effectif au niveau de Pôle emploi. Mais c'est un début et surtout cette convergence des luttes. On a été aussi en contact avec d'autres secteurs en lutte, que ce soit les postiers, les cheminots, qui à l'époque étaient également en lutte. Voilà, cette convergence des luttes, c'est ça qui nous fera gagner. Et je voulais juste dire un mot, c'est que quel que soit notre côté du guichet au niveau de Pôle emploi, en tout cas nous, c'est ce qu'on défend à Sud Emploi, mais j'ai aussi des collègues qui sont dans cette logique, c'est qu'on est dans la même galère et c'est pas parce qu'on a un guichet qui nous sépare qu'on est forcément ennemis. Voilà.
Je te remercie Magali. Alors justement, Jérôme, toi, au niveau de ton métier, comment se passe la lutte en interne et même en externe ? Je crois que tu es de Sud, hein, donc je pense que vous avez un certain nombre d'actions à mener. Vous avez mené déjà des actions, j'imagine, déjà contre le projet de loi en question qui est passé par décret.
Je ne cache pas que ça fait plusieurs... Ouais. Ça fait maintenant un an et demi que ça n'arrête pas, mais d'accord. Ça fait déjà d'avant. Hein, les attaques, elles ne cessent pas, donc on est un peu toujours sur le pont. C'est parfois assez difficile, hein. Je voulais juste revenir sur ce que disait Magali par rapport à l'agence de Lomière. Moi, il me semble que ce qui est important, on peut pas la généralisation des luttes, ça se décrète pas. Donc, on peut pas obtenir d'un coup que les agences, les unes après les autres, mais par contre, le fait qu'il y ait une agence qui se soit bougée et que, comme exemple, ce qui en ressort, c'est qu'elle ait obtenu gain de cause, ça, c'est susceptible, dans un moyen à long terme, de voir des effets positifs énormes sur la bagarre. Parce que c'est très bien de dire aux gens « allons-y, battons-nous » et tout, mais de montrer concrètement, y compris sur une seule agence, que un peu de détermination, d'unité, de convergence, ça permet de payer, ça, c'est une vraie leçon pour le coup. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes après, quoi. Parce que voilà, la démonstration, elle est faite dans les faits. Donc je pense que c'est important ce qui s'est passé, à mon avis, à l'agence de Pôle emploi Lomière. Donc je me permets d'en rajouter une petite louche. Alors, sur nous, on a des stratégies un peu variées parce que en fait, on est face à un problème qui n'existait pas jusqu'alors. On était quand même une administration publique respectable, respectée. Enfin, on avait un certain statut dans l'ordre des choses, quoi. Voilà, l'inspection du travail, c'était quelque chose d'important. Donc, il suffisait qu'on élève un peu la voix sur certains aspects et on était écouté. Mais ça, c'est le passé. Et il faut s'adapter à une nouvelle situation où on est dans le laminoir comme les autres et on est obligé de faire comme les autres. Donc il a fallu inventer plein de choses. Donc on met des actions qui sont parfois très dures, des actions un peu alternatives, on envahit des réunions, on fait des choses comme ça. Et en même temps, on met une série d'actions juridiques qui ont vocation à faire sortir toutes les failles dont j'ai parlé, les failles juridiques du plan, et le faire s'écraser comme ça. Donc on est en train d'essayer de faire converger ça aussi, c'est-à-dire à la fois en s'appuyant sur le droit et sur la mobilisation. Bon, il y a loin de la coupe aux lèvres, mais là où Pôle emploi, Lomière peut être un exemple pour nous, c'est qu'on en est à la phase où on est dans la lutte au couteau sur le terrain, là, dans les agences, dans les unités territoriales. Et c'est là que ça va se bagarrer. C'est parce que leur plan, il est magnifique sur papier, là, bien sûr, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Mais là, ils sont face à des vrais secrétaires, des vrais contrôleurs, des vrais inspecteurs du travail qui sont sur leur poste. Et on leur dit, bougez, vous allez monter d'un étage, vous allez passer, vous allez changer de chef, vous êtes plus le même statut, machin, etc. Ben, là, c'est là qu'on va voir la vérité des prix. C'est quand ça va se bagarrer sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a juste une petite dernière chose que je veux dire avant de repasser la parole. C'est dans l'effet des convergences dont on parlait tout à l'heure, il y a des choses importantes qui se passent, comme par exemple le fait que dans le cadre de nos diverses réorganisations, ils ont créé la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et à la fin du travail et de l'emploi. Bon, c'est pour vous dire dans quel ordre ils mettent les choses. Hein. Mais c'est devenu, ce qui est l'intérêt du truc, la ruse de l'histoire un peu, c'est que c'est devenu le centre à occuper en permanence par n'importe quelle catégorie qui a un problème avec son boulot, avec son chômage ou avec son statut d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est vraiment devenu un centre. Ils ont créé le lieu par excellence où on pouvait agir. Et donc, moi, j'invite tout le monde à venir occuper ce lieu s'ils ont des revendications sur leur boulot.
Merci, Jérôme. On n'a peut-être pas le temps de parler du CSI. Tu peux dire deux mots sur le collectif d'Aubervilliers, peut-être?
Que Sud Travail et Sud Emploi est là aujourd'hui, on voulait dire que dans le cadre de cette convergence des luttes, et il y a actuellement le collectif d'Aubervilliers qui est en lutte, des mal logés qui ont été expulsés, qui n'ont pas été relogés suite à des incendies, etc., qui ont trouvé refuge dans l'ancienne agence ANPE d'Aubervilliers, et qui donc est un local, un site qui est vide, hein, et voilà, donc on apporte notre soutien, que ce soit dans les paroles mais également dans les actes, à ce collectif et à tous ceux qui se battent.
Bon, allez les soutenir, c'est important de soutenir les camarades qui sont en lutte. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir fait cette émission avec moi et puis avec Ludo. Merci messieurs dames d'avoir écouté cette émission. Vous revenez ici quand vous voulez, hein, vous êtes
avec
chez
plaisir.
Vous, hein, voilà. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Je fais un gros bisou aux filles et une poignée de main aux garçons. Ciao.
Monsieur Doublon, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Doublon.